Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Walid Acharchour, Simon Dutin, Kevin Diaz, merci d'écouter Génération After. Il est 21h33, le podcast de la première heure est déjà en ligne. Vous pouvez le réécouter également avec l'interview notamment de Dante, le capitaine de l'OGC Nice. On s'est régalé avec lui, hein, sa façon de parler foot et sa transparence, sa spontanéité également à 39 ans. Mais d'abord, avant d'évoquer le Rennes, la vie tranchée de Walid, parlons de Montpellier. Romain Pitot, je vous le disais à l'instant, a été mis à pied à titre conservatoire. Il est arrivé il y a 4 mois à la tête de l'équipe du Montpellier Hérault. Julien Landry est avec nous. Salut Julien.
Bonsoir messieurs.
Notre correspondant dans l'Hérault.
Salut Julien.
Alors, il y a plusieurs infos à donner. Hein. Commençons déjà par l'info qui vient de tomber, mon cher Julien. On parlera de Romain Pitot après, dans un instant. Un homme revient à Montpellier.
C'est l'histoire de ce club, hein, en fait. C'est toujours des histoires de retour. Hein. Et c'est vrai que dans tous les noms qu'on sondait depuis le début de soirée pour savoir qui pouvait être celui qui allait revenir sur le banc, Girard, Courbis, Hans, c'est donc Michel Derzakarian qui fera son retour sur le banc montpelliérain un an et demi après l'avoir quitté, où il avait fait 4 belles années du côté de l'Hérault, 4 fois dans les 10 premiers, une fois aux portes de l'Europe. Il était parti du côté de Brest avant de se faire licencier. Et dimanche, qui c'est qui vient à la Mosson ? Brest, évidemment, pour les retrouvailles entre Montpellier et Brest, avec donc Michel Derzakarian qui retrouvera les Brestois. Mais voilà le choix opéré par Laurent Nicolin, le retour de Michel Derzakarian sur les bancs du MHSC pour la fin de la saison.
D'Aloglio Derzakarian entre Brest et Montpellier n'aura pas été incroyable. Hein. Loin de là.
Non, c'est vrai que c'est des choix. Alors après, Michel il pensait avoir fait le tour du côté de Montpellier après les 4 belles années qu'il avait vécues. Il voulait voir autre chose et Olivier Daloglio aussi de son côté. Et c'est vrai que cet échange-là, quand on se projette un petit peu plus loin entre l'échec de Daloglio à Montpellier, l'échec de Michel Derzakarian du côté de Brest, c'est vrai que ça n'a pas forcément été une réussite.
Donc c'était plus un choix de Derzakarian de partir de Montpellier que de Nicolas.
Ils étaient arrivés au bout de leur histoire. Ils avaient signé 2 ans, une prolongation puis une nouvelle prolongation. Et Michel Derzakarian voulait voir autre chose. Alors au départ, il espérait autre chose que Brest, un club plus ambitieux qui ne s'est pas présenté. Mais voilà, dans l'histoire du club, c'est un entraîneur qui n'était pas parti fâché avec l'état-major montpelliérain. Ils avaient toujours des très bons rapports avec Laurent Nicolin, avec Michel Mézy, et ça aussi ça compte. Et puis il connaît quasiment l'intégralité de l'effectif qu'il va retrouver, même si voilà le staff va un peu changer, on va en parler. Mais voilà, c'est quelqu'un qui connaît tous les joueurs quasiment qu'il aura à coacher, et donc c'est évidemment aussi du temps de gagner.
Tu dirais que c'est temps de gagner, Julien. Est-ce que c'est pas une solution de facilité également, quand même ?
Oui, parce que ce club continue de fonctionner pareil, avec toujours les mêmes leviers, à savoir faire revenir des anciens. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de noms qui circulaient, des noms extérieurs. On pensait à Jocelyn Gourvenec, à Rémi Garde, pourquoi pas, à Frédéric Antonetti, dont le nom revenait aussi avec insistance. Mais c'est vrai que du coup, ils sont partis sur une solution. Alors, je ne sais pas si c'est de facilité, mais en tout cas, il y a urgence du côté de Montpellier. Il reste 16 journées. C'est vrai que Michel Derzakarian, qui connaît très bien le club, qui connaît tout le monde, ça va être une intégration express pour Derzakarian, qui a donc la mission de sauver le club avec ce match dimanche contre Brest.
Voilà, ce sera contre Brest dimanche. Derzakarian qui avait fait, je regardais hein, son bilan à Montpellier, qui était quand même plus qu'honorable, 10e, 6e, 8e et 8e. Bon, il avait bénéficié aussi du duo Laborde de l'or.
Le trio, mais avec Mollet.
Et Mollet également, t'as raison. Il y avait une belle équipe à l'époque, oui. Au milieu de terrain très dense également. Et Vitorino Hilton, qui ne va donc pas retrouver lui. En revanche, réaction les gars ?
Réaction, écoute.
Non mais est-ce que, je veux dire, très bien, Derzakarian, c'est un homme qu'on apprécie en plus, je pense que Montpellier veut se rassurer dans une opération maintien.
Franchement, ça se comprend.
Faudra voir la durée du contrat également.
Ils ont essayé un jeune entraîneur, ça n'a pas marché, ou en tout cas, selon eux, ça n'était pas suffisant. Là, ils choisissent un entraîneur expérimenté de Ligue 1, on peut pas leur reprocher hein, quand même, de se maintenir en Ligue 1 pour un club comme Montpellier, c'est primordial, c'est obligatoire, c'est tout ce qu'on veut. Donc moi je peux comprendre ce choix, c'est quelqu'un qui connaît la maison, qui aura un peu de temps d'adaptation, et c'est un choix qui peut s'entendre.
Il habitait à côté encore, excuse-moi Walid, Julien, il était retourné à Montpellier.
Non, il était reparti du côté de Nantes. Il était reparti du côté de Nantes après du coup Brest, et donc il va revenir, mais bon, il va retrouver son golf de la Grande Motte. Kevin parlait de l'échec de Romain Pitot. On en avait parlé il y a pas longtemps, Nico, lorsqu'on avait parlé de ce fameux déjeuner. Romain Pitot, j'ai marqué ses 7 défaites sur les 11 derniers matchs. Malgré tout, c'est 8 points pris sur 36 possibles, c'est 23 buts encaissés. C'est un bilan plus compliqué qu'Olivier Dalloglio. Clairement, ça n'avait pas marché. Et quand on voit le calendrier qui arrive pour les Montpellierains avec Brest, 3, Angers, Ajaccio, Clermont, il y avait clairement des matchs très très importants pour l'avenir de Montpellier sur le mois qui vient. Et on a quasiment le sentiment que si les Montpellierains négocient bien ce mois, ils pourraient quasiment être maintenus. Mais on a quand même vécu une journée assez bizarre, hein, parce que on sentait qu'il y allait avoir quelque chose qui allait bouger du côté de Montpellier. Du coup, on a été à l'entraînement cet après-midi, convoqué à 15h l'entraînement. Tout le monde est sorti à 15h40 avec donc Romain Pitot, Frédéric Mendy et Pascal Baïs qui ont animé la séance, et rien ne laissait présager à ce qui est en train de se passer en ce moment. L'entraînement s'est terminé à 17h30 avec des sourires et tout le monde a appris la nouvelle aux alentours de 18h, joueurs et staff compris, que c'était le dernier entraînement qu'il venait de diriger, et les joueurs l'ont appris dans la soirée. Ils vont donc apprendre également en ce moment que Michel Darzac-Crayen est leur nouvel entraîneur. Mais c'est vrai que c'est une journée très particulière du côté de Montpellier aujourd'hui.
Fallait faire quelque chose, hein. Fallait arrêter le massacre. Oui. Parce que, hormis la victoire contre Auxerre, où en transition, t'as réussi à piéger un peu une
miraculeuse. Voilà. Touche deux fois les poteaux. Auxerre, le compte sort un pénalty.
Ils ont été très naïfs, les Auxerrois, sur ce match-là. Mais on a encore vu ce week-end, c'est Steph qui a fait une sortie à la mi-temps ou à la fin du match.
20 ans, le gamin,
où il était en colère au micro de Prime Video. Voilà, il fallait faire quelque chose. Et dans la vague des intérimaires de Ligue 1 entre Didier Digard, Will Steele, Romain Pitot, il y en a où ça fonctionne et il y en a où ça fonctionne pas.
Le Scornet.
Voilà, le Scornet aussi, on va voir, mais ça prend pas tout de suite, même s'ils ont gagné ce week-end. Donc
on verra. Ludovic est avec nous, supporter de Montpellier. Salut Ludovic.
Oui, bonsoir les gars, ça va bien.
Bien et toi? Salut. Alors comment tu prends la nouvelle, le retour de Derzoum?
MDZ.
N'empêche, ça vous rappelle rien entre le comte Michel Darzac-Crayen.
C'est vrai ça.
Et oui. Voilà,
dommage de l'or à signer à Nantes.
D'accord, le retour de Valderrama à Montpellier aussi. Une génération, excusez-moi.
De toute façon, on ne peut jurer de rien avec le foot, mais moi perso, je suis assez content du retour de Michel Darzac-Crayen. Mais alors après, on peut être contre, on peut être pour, ça peu importe. J'ai envie de dire, c'est juste que là, je suis soulagé dans le sens où on prend la mesure de l'urgence et du risque de la descente en Ligue 2. Donc déjà, ça c'est un premier pas dans la tentative, en tout cas, de résolution du problème. Et pour moi, ça déjà, c'est un peu un soulagement, parce que là, ça commençait vraiment, tu le disais, à sentir un peu le roussi, mis à part les victoires à Lorient et Auxerre. Il n'y avait strictement rien eu avec Romain Pitot, à qui on a laissé suffisamment de temps et la chance, malgré le fait qu'il soit inexpérimenté. On lui souhaite quand même de meilleures choses pour la suite. Et là, avec Michel Darzac-Crayen, non seulement il connaît la maison, on disait avec Adrien au Standard que c'est dans les plus vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Donc espérons que ça marche au moins pour la fin de la saison. Et puis qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Oui, il y a le comte, il y a Michel Darzac-Crayen. Non, on retrouve maintenant des têtes qui nous font nous rassurer pour la fin de saison.
Mais
je pense que ça va bien bosser. Et moi, je regrette juste un truc, c'est qu'on se soit séparé de Darzac. Alors certes, on avait fait des milieux au tableau, des 8e, 10e, et que même si on s'écroulait à chaque fois sur ces années-là, entre 2017 et 2021, on arrivait à la 30e journée, je vous rappelle, on était 3 ou 4 saisons d'affilée dans les 5, et puis après, sur le sprint final, ça marchait plus, et puis nous, on était un peu bouche bée quand Derzac est parti, parce qu'il disait vouloir viser plus haut. Il a pas fait long feu avec Brest, mais en tout cas, moi, je suis content de son retour et j'espère vraiment qu'on va se sauver avec lui pour partir après, à voir. Mais en tout cas, en Ligue 1 pour l'année prochaine, parce que c'est quand même l'objectif number one.
Entraîneur rassurant.
Il y a un choix fort, Nico, dans la journée. Par contre, c'est la mise à pied à titre conservatoire également de Pascal Baïs, qui était le dernier historique du club, qui était là avec René Girard en 2009, qui faisait partie du staff champion de France, qui avait résisté à tous les changements d'entraîneur et qui, par contre, aujourd'hui, ne va pas résister à cette nouvelle révolution, en tout cas, ce nouveau changement. Pascal Baïs était quasiment sur le banc de touche montpellierain depuis 15 ans. Mais c'est vrai que ça n'avait jamais fonctionné. Si on se rappelle, lorsqu'il a été intronisé juste après Olivier Dalloglio, Laurent Nicolin lui avait dit que sur les 4 matchs qui arrivaient, il devait prendre 6 points. Il n'en avait pris que 2. Mais malgré cet échec, il avait quand même été confirmé dans son poste. On se demande presque aujourd'hui s'ils n'ont pas agi trop tard. En tout cas, la réponse, ce sera en fin de saison. Mais on a l'impression qu'ils ont vraiment attendu le dernier moment pour changer Romain Pitot. Et que là, comme le disait Walid, il fallait absolument faire quelque chose parce que le club allait sombrer dangereusement au classement.
Montpellier, 20e de Ligue 1. 15e de Ligue 1 avec 20 points, pardon. Et 2 points d'avance sur le premier relégal Strasbourg. Merci, Julien. Merci à toi aussi, Ludovic. N'hésite pas à nous rappeler pour évoquer le travail maintenant de Dazak Aran, qui avait déjà fait un retour dans un autre club. Il était allé à Nantes, il était monté en Ligue 1, il avait 3 journées, il s'était fait dégager par Kita, évidemment, qui ne croyait pas en lui, et qu'il avait rappelé plus tard. Bref, voilà, Valdemar Kita style. Les gars, parlons de Rennes à présent.
On aura le temps.
Bien sûr, on a le temps. Jingle, Walid, Génération.
Moi, quand je m'habillais, quand je sortais, etc., je détestais mettre de l'argent dans des jeans. Je préférais mettre un beau t-shirt, une belle chemise, de l'argent dans des belles chaussures.
Tu sais qu'on n'a jamais vu les belles chemises et les beaux t-shirts finalement.
Ouais, on voit 2-3 vestes quand même, sympathique, non?
Il a un pantalon aujourd'hui pour nos auditeurs.
Ton avis tranché soir, je suis Stade Rennes.
Je suis comme Kevin Diaz, je suis dans les chinos maintenant.
Nous sommes trop indulgents avec le Stade Rennais. Pourquoi indulgents?
Oui, c'est vrai que je voulais parler du Stade Rennais parce que en 2023, bien évidemment, il y a des blessures. Martin Terrier, Amari Traoré. Mais je trouve que ce qu'il propose et surtout les résultats du Stade Rennais ne sont pas en adéquation avec les ambitions en début de saison. Et je trouve que un peu comme le RC Lens à une échelle un peu différente.
Ah, ouh là là. Désolé Walid, en plein avis tranché, en plein développement.
On peut pas parler de.
Nous avons le vainqueur. Le vainqueur des deux places pour le huitième. Ah. Pardon, dès maintenant, voilà, oui. C'est ça. Dès maintenant, vous pouvez appeler, faire le foot 732-16, envoyer foot 732-16.
Qui appelle en fait?
Je suis pas Philippe Rizzoli encore. Dès maintenant, vrai, vous envoyez foot au 732-16 pour gagner 2 places pour le match entre Marseille et le PSG. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant, il est 21h45 jusqu'à 21h15 pour envoyer ce SMS foot au 732-16. Je te rends la parole, mon cher Walid.
Oui, je disais que cette victoire contre le Paris Saint-Germain, pour le grand public ou pour les observateurs, on peut-être suffit à ne pas critiquer le Stade Rennais, mais autour de ces matchs-là, et puis il faut rappeler que ce match contre le PSG était quand même circonstanciel, avec un nouveau système de jeu, avec pas mal de blessures, et ils ont réussi à capitaliser là-dessus. Mais sinon, sur les 7 derniers matchs, il y a énormément de contre-performances. Ils ont perdu à Lorient, ils ont perdu à Reims, ils ont perdu contre Lille ce week-end, ils ont perdu à Clermont, ils ont perdu parce que je ne sais pas si c'était un objectif pour les Rennais, mais un match important en Coupe de France contre Marseille au Vélodrome en proposant très très peu de choses. Et c'est vrai que même s'il y a des blessures, je trouve que les excuses des blessures ne doivent pas masquer le fait que dans le jeu, Rennes est battu par pas mal d'équipes sur cette séquence-là, par des équipes inférieures à Rennes normalement sur le papier. Et je voulais en parler parce que samedi j'ai quand même été déçu globalement après l'ouverture du score de Guiri sur une erreur de Lenny Yoro. On en a parlé tout à l'heure. Ils ont été bousculés par Lille et la victoire lilloise est méritée. Et même du côté du staff et du côté de Genesio. Alors je veux bien évidemment. On en parle souvent, ces interviews chez Jérôme, c'est super, hein, la communication, etc., etc. Mais j'aimerais bien que sur le terrain, on voit un peu plus de choses côté Rennais. Et actuellement, au classement, je trouve que le Stade Rennais devrait un peu plus regarder vers l'arrière que vers l'avant, parce que il y a des équipes qui reviennent. Nice est à 6 points, Lille est très très proche
et à
2 points. Et devant, ça commence à avancer. Et l'objectif de Rennes, c'était quand même d'essayer d'aller chercher cette troisième place avec les moyens qu'ils ont mis. Et quand on voit Monaco, Lens, Marseille, attention à ne pas les laisser s'échapper. Donc voilà, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Daniel Riolo, par exemple, n'en parle pas. Jérôme Rotten en parle peu. Les observateurs en parlent peu. J'aimerais quand même que... Parce que moi, j'ai un peu d'exigence avec cette équipe rennaise par rapport aux joueurs qu'ils ont.
C'est sûr qu'on peut avoir.
J'ai dit Daniel Riolo parce qu'il est rentré dans le studio et je veux un peu l'angoisser.
D'ailleurs, il est rentré pour te mettre la pression.
Exactement.
Il est sorti sur un pressing.
Ah ouais, non, mais.
Il est sorti après, sur un pressing.
Il a l'air bien angoissé d'ailleurs, ça a marché, j'ai l'impression.
Après, j'ai pied droit, pied gauche, Kevin.
Non, mais c'est vrai qu'on peut, considérer qu'il faut être exigeant avec Rennes maintenant.
Non, mais on n'entend rien. Non, je sais pas si j'étais d'accord avec moi, Kevin.
Moi, je suis de ceux qui ne sous-estiment pas du tout, et je ne dis pas que tu le fais, mais.
La blessure de Terrier.
Ouais, pour moi, la blessure de Terrier, moi, je l'ai comparé, hein, toute proportion gardée avec une éventuelle blessure ou absence de Mbappé pour le Paris Saint-Germain. Mais Martin Terrier, c'était vraiment un joueur qui amenait beaucoup de verticalité, qui amenait énormément de choses, qui décrochait, qui faisait jouer l'équipe. C'était tout simplement le meilleur joueur et de loin, allez, disons avec Bourigeaud de cet effectif. Et ils n'ont pas réussi à le remplacer parce que je pense que, au vu le niveau qu'il avait atteint, très difficile de remplacer un joueur comme ça.
Mais Toko Ekambi, tu m'avais dit qu'à Rennes, ça allait suffire pour Terrier.
Non, ne sois pas taquin. Ne sois pas vicieux. Mais non, Toko Ekambi, c'est un profil qui pourra aider à tenter de pallier l'absence, mais ce sera très difficile.
Doku, non, 30 millions d'euros sur Doku, ça se. Non.
Non, mais après, le prix d'un joueur, c'est pas forcément le rendement qu'il a.
Oui, d'accord, mais je.
Très bien.
Donc la saison de Rennes est terminée parce que Terrier.
Non, la saison de Rennes n'est pas terminée, mais la saison de Rennes a pris un coup avec l'absence de son meilleur joueur.
D'accord. Donc, mais tu t'attends.
Comme si Alex Sanchez se blesse avec l'OM, comme si Mbappé se blesse avec le PSG.
Enfin, je pense que si Sanchez. Se blesse, il y a quand même des solutions pour que
l'on. Il y a des solutions à Rennes, mais ce ne sera pas le même niveau.
Oui, d'accord, mais j'aimerais quand même que le coach, sur les prochaines semaines, parce que c'est juste un petit pas avertissement, mais essayer de mettre un coup de projecteur sur le fait que les copains, Rennes en ce moment, c'est pas ouf.
Ouais, mais justement,
non, mais c'est juste ça que j'aimerais expliquer. Donc sur les prochaines semaines, on attend.
On le voit.
Walid, lanceur d'alerte.
Le fait que tu en fasses ton avis ce soir.
5 défaites sur les 7 derniers matchs, si pour un club comme Rennes, c'est 5 défaites.
Mais tu le dis dans.
Sur les 9 derniers matchs.
Toutes compétitions confondues ou on.
Oui, sur les 9 derniers matchs.
Oui, c'est ça.
Le fait que tu en fasses ton avis ce soir, c'est la preuve que le curseur il a changé de place avec ce club, que l'attente a changé vis-à-vis de ce club.
Les moyens ont changé. Ce qu'on dit de Genesio a changé.
Mais non, mais parce que je suis désolé, effectivement, tu es en train de dire, voilà, tu es en train de les traiter comme un club dont on attend
c'est
beaucoup
normal.
Plus.
La meilleure équipe
ne peut pas se permettre un trou d'air. Alors que je considère que, justement, Genesio, il y a beaucoup de changements quand même dans l'effectif. Ce qu'a fait Genesio depuis le début de saison, c'était selon moi au-dessus. Bien au-delà de ce qu'on pouvait espérer, de ce qu'on aurait pu. Non, mais toi, la preuve que toi, t'es pas rassasié, t'es frustré, tu trouves qu'on est, il y a trop de mansuétude avec le Stade Rennais. Moi, j'y vois une marque, la marque, le club qui cherche à construire le deuxième étage de la fusée depuis quelques années, je pense, est en train de s'en rapprocher. T'es un peu frustré, il y a de l'impatience, mais moi, j'y vois un signe malgré tout positif.
Oui, c'est positif, bien évidemment, parce que le curseur à Rennes l'année dernière, on rappelle quand même que Genesio a été nommé meilleur gardien. Meilleur entraîneur de Ligue 1, que cette équipe-là était la plus belle équipe.
Mais tu attendais qu'elle confirme un peu plus cette saison.
Pour beaucoup en Ligue 1, et cette année, en tout cas là sur la période, j'aurais aimé, moi en tout cas, que. Enfin, j'aimerais que Rennes.
On verra après le match.
On verra.
Après la double confrontation en Coupe d'Europe, on en parle.
Contre après, il joue le Shakhtar,
Ah, c'est un bon club, le Shakhtar.
Rennes qui ira à Toulouse ce week-end pour la 23e journée de Ligue 1.
Dans le jeu, je vois très peu de choses.
La chronique de Jimmy, 2-0 à la mi-temps pour la Juve face à la Salernitana en Serie A, et puis 3-1. Alors, ça passionne Simon, c'est incroyable ce match. Demi-finale du Mondial des clubs. Dès qu'il y a un but, il nous dit les gars, il y a un but, mais on s'en fout un petit peu.
J'ai retrouvé Thiago.
Et voilà, et mais Alina, tu vois, c'est la preuve. T'as pas voulu me laisser 5 minutes pour en parler. Et
Thiago Maia, l'ancien Lillois.
J'ai retrouvé Thiago Maia, l'ancien Lillois, et Luciano Vietto, l'ancien joueur de l'Atlético Madrid.
On l'a perdu à la mi-temps.
C'est la preuve que la FIFA nous a bousillé la Coupe Intercontinentale, qui était une coupe mythique.
Dans un instant, la chronique de Jimmy, Génération After, à tout de suite.